Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, l'actualité sur VOA Afrique avec Alexandrine Frolognon. Bonsoir et bienvenue. Voici les titres que nous allons développer ce soir. L'ONU lance un appel pour une aide humanitaire de plus de 2 milliards de dollars pour la Somalie. Le pays subit une sécheresse inédite et plus de 8 millions de personnes sont touchées. Deux employés d'une organisation humanitaire tués par balle dans la région d'Amara en Éthiopie. La région est en proie à des troubles après le processus de désarmement entamé par le gouvernement fédéral. Le président Joe Biden est à Belfast pour les commémorations du 25e anniversaire de l'accord du Vendredi Saint qui a apporté la paix en Irlande du Nord. On en parle tout à l'heure. Et puis un club de football tunisien a suspendu ses activités après l'émigration clandestine d'une trentaine de ses joueurs vers l'Europe. C'est dans la page des sports de Yacouba Ouedraogo. D'abord, l'ambassadrice du Tchad à Berlin est priée de quitter l'Allemagne dans 48 heures. Cela fait suite à l'expulsion vendredi dernier de l'ambassadeur allemand du Tchad. John Lyndon nous donne plus de précisions.
En réaction à l'expulsion injustifiée de notre ambassadeur au Tchad, nous avons convoqué aujourd'hui l'ambassadrice tchadienne à Berlin, Maria Mali Moussa, et l'avons priée de quitter l'Allemagne sous les prochaines 48 heures, écrit le ministère allemand des Affaires étrangères dans un tweet. Le gouvernement tchadien avait annoncé tard dans la soirée de vendredi l'expulsion de Jan Christian Gordon Krieke, ambassadeur allemand pour attitude discourtoise et non-respect des usages diplomatique. Il n'avait pas donné des détails sur les faits reprochés. Une source gouvernementale tchadienne avait affirmé, sous couvert d'anonymat, que les autorités reprochaient aux diplomates de trop s'immiscer dans la gouvernance du pays, ainsi que des propos tendant à diviser les Tchadiens.
Au Mali, le secrétaire général de l'ONU demande à la junte de presser le pas pour le retour des civils au pouvoir. Dans un rapport destiné au Conseil de sécurité qui se réunit demain sur le Mali, Antonio Guterres exprime aussi sa préoccupation sur l'impasse dans laquelle se trouve l'application de l'accord d'Alger entre l'État malien et des groupes armés du nord du pays. En visite en Somalie, le secrétaire général de l'ONU tire la sonnette d'alarme. Antonio Guterres appelle à un soutien massif pour aider le pays menacé par une sécheresse historique qui touche plus de la moitié de la population. La Somalie est aussi fragilisée par une insurrection islamiste. Le point avec Rosine Munezero.
Antonio Guterres est arrivé dans la matinée à Mogadiscio pour une visite de solidarité à l'occasion du mois de Ramadan. Je suis également ici pour tirer la sonnette d'alarme sur le besoin d'un soutien international massif en raison des difficultés humanitaires et sécuritaires auxquelles le pays est confronté, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Ils ont discuté aussi de la lutte contre le terrorisme et de faire progresser la paix et la sécurité. La Somalie fait face à la pire sécheresse en 4 décennies. L'ONU a lancé un appel pour une aide humanitaire de 2,6 milliards de dollars. Le chef de l'ONU a exhorté les donateurs à intensifier leur soutien pour financer le plan de réponse humanitaire 2023 qui n'est financé qu'à 15%. Monsieur Guterres doit rencontrer différents acteurs politiques et se rendre dans un camp de déplacés.
La Tunisie a présent. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une centaine de demandeurs d'asile et migrants africains qui campaient devant le siège du Haut Commissariat aux réfugiés à Tunis. Originaires d'Afrique subsaharienne, les manifestants cherchaient pour la plupart à être évacués vers des pays tiers. Ils ont érigé des barricades devant le bâtiment onusien avant une intervention de la police. Dans une lettre ouverte, un groupe de demandeurs d'asile et migrants d'une quinzaine de pays africains a expliqué qu'ils s'étaient réfugiés près du HCR après avoir été chassés de plusieurs villes de Tunisie suite à un discours en février dernier du président Kais Saied dénonçant l'immigration clandestine des subsahariens. Dans le nord de l'Éthiopie, deux employés de l'organisation humanitaire Catholic Relief Services ont été tués par balle au cours du week-end à Amara. Cette région est en proie à des troubles depuis plusieurs jours suite à une opération de désarmement lancée par le gouvernement fédéral. Claire Morin-Gibourg.
Chuol Tonjik, un responsable de la sécurité, et Amare Kindeya, un chauffeur, ont été tués par balle dans un véhicule de l'ONG. Les circonstances de leur meurtre, survenu dimanche, sont inconnues, précise cette organisation catholique basée aux États-Unis. La situation est difficile à évaluer en Amara, interdite d'accès à la presse pour des raisons de sécurité. Lundi, des restrictions ont été imposées dans les trois principales villes de Gondar, Dessy et d'Ebrébiram. Des manifestations et blocages de routes ont eu lieu dans la région depuis jeudi dernier, après que le gouvernement fédéral a entamé le processus de désarmement et de réaffectation dans l'armée fédérale ou la police de membres des forces spéciales régionales. Dimanche, le Premier ministre Abiy Ahmed a assuré que ce processus de désarmement irait à son terme, quel qu'en soit le prix, et a averti que la loi va s'appliquer à ceux qui jouent délibérément un rôle déstabilisateur.
La Cour européenne des droits de l'homme a décidé d'examiner la requête d'un demandeur d'asile irakien menacé d'expulsion du Royaume-Uni vers le Rwanda. C'est dans le cadre d'un accord entre Londres et Kigali. Le requérant a quitté l'Irak en avril 2022 et est arrivé le 17 mai sur le sol britannique où l'asile lui a été refusé, rappelle la Cour basée à Strasbourg en France. Son expulsion vers le Rwanda lui a alors été notifiée dans le cadre de l'accord d'expulsion des migrants entrés illégalement au Royaume-Uni, signé en avril 2022 entre Londres et Kigali.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Si vous nous rejoignez, c'est Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nous sommes maintenant aux États-Unis. Le président Joe Biden arrive en Irlande aujourd'hui, Irlande du Nord, terre de ses ancêtres. C'est un voyage lourd de symboles à l'occasion du 25e anniversaire de l'accord de paix qui a mis fin à trois décennies de violence. Le point avec Nanit Talani.
Joe Biden arrive ce soir et aura une réunion demain matin avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Monsieur Sunak a souligné que l'anniversaire de l'accord est l'occasion de célébrer ceux qui ont pris des décisions difficiles, accepté des compromis et fait preuve de leadership. Un compromis qui semble hors de portée dans la province où les institutions créées à la suite de l'accord et censées allier les communautés sont paralysées depuis plus d'un an en raison de désaccords liés au Brexit. Monsieur Biden va participer après à une conférence à la Ulster University de Belfast pour souligner les progrès depuis la signature de l'accord, a affirmé lundi John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité. Il doit aussi rencontrer les dirigeants des cinq partis politiques nord-irlandais.
Un Américain sur cinq dit avoir un membre de sa famille mort par arme à feu, y compris par suicide. C'est selon une enquête menée par la Kaiser Family Foundation. Selon l'étude, ces violences touchent de manière disproportionnée les personnes noires et hispaniques. Le président américain Joe Biden a maintes fois promis d'agir contre ce fléau, mais sa marge de manœuvre est limitée par une très forte polarisation au Congrès. En Birmanie, des dizaines de personnes tuées dans une attaque aérienne attribuée à l'armée birmane dans le centre du pays. Au moment de l'attaque, plusieurs dizaines de personnes s'étaient réunies pour l'ouverture d'un bureau d'un groupe des forces de défense locales. La Birmanie est déchirée par un conflit entre la junte et ses opposants depuis le coup d'État du 1er février 2021 qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi. Et c'est tout pour les informations. Continue de vivre l'actualité sur VOA Afrique. C'était l'essentiel de l'actualité du jour dans Le Monde aujourd'hui. Alexandrine Rollognon, toujours avec vous pour la suite de cette édition. La Minute Éco vous est présentée aujourd'hui par Mohamedou Oufa.
Le Kenya espère voir l'arrivée de 10 millions de touristes étrangers au cours des 5 prochaines années, a indiqué vendredi le président de l'Office du tourisme du Kenya, Francis Gichaba, alors que le pays a reçu environ 1,5 million de touristes en 2022. Monsieur Gichaba a affirmé que le pays harmoniserait ses initiatives de marketing afin que l'objectif puisse être atteint progressivement d'ici l'année 2027. Une convention de financement de 31,7 millions d'euros a été signée samedi entre la chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée et la ministre guinéenne du Plan et de la Coopération internationale. Ce montant vise à financer les activités du gouvernement dans la conduite des opérations de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. L'appui permettra aussi de renforcer la coopération technique et le dialogue politique entre l'UE et la Guinée. La société de télécommunications Orange a lancé samedi les premiers tests du réseau de 5e génération 5G en Guinée-Bissau. Selon le directeur général de Orange Guinée-Bissau, Brutus Sekou Diakité, La connectivité sur le réseau 5G va changer le quotidien des utilisateurs, que ce soit au travail, à l'école ou dans d'autres activités. Il a ajouté que le projet de câble sous-marin connecté à l'autoroute internationale des communications va améliorer la bande passante et la connectivité du réseau 5G.
Le sport, c'est avec Yacouba Ouédraogo qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Alexandrine, bonsoir à tous.
Un club de foot tunisien se retrouve sans joueur.
Oui, le club amateur de Gardi Maou, évoluant en 4e division du championnat de Tunisie, a suspendu ses activités après l'immigration clandestine d'une trentaine de ses joueurs vers l'Europe. L'annonce est faite par son président Jamil Meftahi, qui affirme que sa formation a arrêté l'activité et suspendu les matchs depuis 20 jours. Il impute cet exode à un manque de ressources financières du club et des joueurs. Nous ne pouvons pas acheter d'équipement, de maillots et de chaussures de sport et les joueurs ne bénéficient pas de subventions financières, soutient Jamil Meftahi. Selon lui, la plupart des joueurs âgés de 17 à 22 ans ont gagné l'Europe, soit par la mer, soit en allant en Serbie, pays pour lequel les Tunisiens n'avaient pas besoin de visa jusqu'à récemment. Ils ont ensuite traversé illégalement les frontières vers d'autres pays.
Match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez reçoit le Bayern Munich, premier sommet du printemps européen. Avant de pouvoir rêver, soulever sa première coupe aux grandes oreilles avec City, Pep Guardiola devrait passer l'obstacle du Bayern Munich, du nouveau coach et rival de l'Espagnol Thomas Tuchel. Les Bavarois seront privés de leur avant-centre camerounais Eric Maxime Choupo-Moting. L'occasion peut-être pour le Sénégalais Sadio Mané d'être titularisé, lui qui ne débute pas très souvent depuis son retour de blessure. Dans l'autre quart de finale de ce mardi, le Benfica fera face à l'Inter Milan du portier camerounais André Onana.
Fréquentation record des parquets en NBA cette année.
La saison régulière 2022-2023 a attiré dans les salles plus de 22 200 000 spectateurs aux États-Unis et au Canada. Bagassi Koura.
Oui, c'est un nouveau record de fréquentation selon la Ligue nord-américaine de basketball. Le précédent record, qui était de plus de 22 100 000 spectateurs, datait de la saison 2017-2018. Conséquence donc, la fréquentation moyenne a dépassé pour la première fois le seuil des 18 000 spectateurs par match. Le taux de remplissage a atteint avec 97% un niveau inédit. La NBA précise que 791 matchs se sont déroulés à guichet fermé, constituant également un nouveau record contre 760 matchs en 2018-2019. La saison 2022-2023 se poursuit avec les barrages d'accession aux playoffs qui débutent ce soir et vont se poursuivre jusqu'à vendredi. Atlanta fait face à Miami et Minnesota défie les Los Angeles Lakers de LeBron James. Les playoffs, eux, commencent samedi.
Merci Bagassi.
Merci Yacouba Ouédraogo pour les informations sportives.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h PU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Alexandrine Cologno avec vous pour la présentation des magazines cette fois-ci. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante clôture officiellement le processus d'enregistrement et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 ce mardi 11 avril. Une ère dans laquelle se retrouve la province du Nord Kivu en proie à l'insécurité. Toutefois, des millions d'électeurs restent à l'écart de ce processus. Les acteurs sociopolitiques congolais demandent à la CENI de prolonger les opérations jusqu'à ce que tout citoyen remplissant les conditions d'éligibilité soit enrôlé. Davantage avec Zanem Neti Zaidi à Goma.
Aux premières heures de ce mardi, des barricades ont été érigées sur les artères principales des quartiers du nord-est de la ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Les jeunes des mouvements citoyens contestent la fin des opérations annoncées par la CENI. Espoir Aspirine de la Lucha explique.
Nous demandons à la CENI de ne pas clôturer l'enrôlement tant que tous les citoyens congolais ne se sont pas encore enrôlés. Si la CENI ou bien le gouvernement congolais ne parvient pas à comprendre ce qu'exige la population, nous cesserons de descendre dans la rue pour exiger que tous nous soyons enrôlés.
À ces derniers jours d'enrôlement, tous les centres de Goma et de Nyiragongo ont été inondés des requérants qui étaient estimés à des milliers. Il est impossible de les satisfaire, estime le député national Jean-Baptiste Kasekwa, qui suggère une prolongation jusqu'au 16 mai.
La CENI a l'obligation de prolonger le délai d'enrôlement jusqu'au plus tôt le 16 mai. La CENI a donné à la ville de Goma 96 kits pour 502 945 électeurs attendus. Or, un kit enrôle 45 personnes par jour. Cela signifie que pour la ville de Goma, la CENI devrait nous donner 117 jours. Prétendre clôturer l'enrôlement le 11 avril, nous aurons totalisé seulement 50 jours d'enrôlement. Nous ne pouvons pas accepter.
Au cas où le processus d'enregistrement et enrôlement des électeurs serait clôturé comme prévu ce 11 avril, la province du Nord Kivu perdra également beaucoup des sièges à l'Assemblée nationale à la prochaine législature, soutient Evariste Iragi, analyste.
En 2018, la province du Nord Kivu était la troisième province qui avait beaucoup de sièges, au total 40. Mais si on ne parvient pas à enrôler beaucoup plus de personnes, il y aura réduction de nombre de sièges parce que le nombre d'enrôlés détermine la répartition des sièges qui va devoir intervenir dans les jours à venir.
Selon les derniers communiqués de la commission électorale publiés le 1er avril, des jetons devraient être distribués à tous les requérants devant les centres et les centres fermeront leurs portes au fur et à mesure que ces détenteurs de jetons seront achevés. Zanem Neti Zaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Au Gabon, le gouvernement lance ses premières assises nationales de lutte contre la vie chère. Un rendez-vous présenté comme celui de toutes les solutions pour soulager le panier de la ménagère. C'est une rencontre de deux jours pour tenter d'apporter des solutions à l'inflation tous azimuts dans les secteurs des transports, de l'alimentation et de l'habitat. Le point avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
André Nzogé est un des acteurs de la société civile invité aux assises nationales contre la vie chère. Il porte le combat de la coalition nationale des syndicats des transports.
Ma présence aujourd'hui, c'est pour que le président de la République puisse prouver aux yeux du monde, aux yeux de la République gabonaise, qu'il aime son peuple. Nous avons terminé avec les assises provinciales. De ces assises provinciales, maintenant c'est les assises nationales. Le président doit marquer un pas. Nous avons proposé à ceux qui aient moins de barrières policières.
Des barrières policières ou douanières qui accentuent l'inflation sur les marchés. Suzanne Dikandou dirige le syndicat des commerçants de Libreville.
Le commerçant ne peut pas payer un régime de bananes à 5 000, il va venir vous donner ça à 1 000 francs. Prix de vente égal, prix d'achat plus, les dépenses, et puis on trouve les bénéfices. J'ai acheté 2 000. Et sur la route, j'ai encore dépensé combien pour amener le régime de bananes là ici. C'est pourquoi j'ai demandé que l'État n'a qu'à prendre le carburant en charge. Et tout est descendu. Nous arranger les routes, Libreville, il y a la nourriture, mais il n'y a pas les routes.
La lutte contre la vie chère, un combat de tous les gouvernements, mais qui reste sans suite de l'avis de partenaires sociaux. Djibril Manganga Ziengui est secrétaire général du syndicat national des commerçants du Gabon.
On lutte, pour être plus précis, c'est que ce que nous allons prendre comme résolution au sort de ces assises-là ne soit pas appliqué en totalité. Tout ce qui concerne la vie chère ici concerne l'alimentation, donc tout tourne normalement autour de l'alimentation. Donc c'est dans cet état-là que nous agissons.
Des assises prévoient un examen minutieux de la structure des prix, à l'issue duquel le gouvernement fixera les marges bénéficiaires acceptables sur la base de la nouvelle mercurielle. Nicole Janine Lydie Roboti, ministre gabonais de l'économie.
Nous avons cette nouvelle mercurielle qui permettra effectivement de pouvoir maintenir les prix qui ne cessent, je le rappelle, ces prix ne cessent d'augmenter à l'international. Donc nous avons trouvé un mécanisme qui permet de pouvoir les contenir.
En dehors de contenir l'inflation, le gouvernement entend aussi adopter d'autres mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Il s'agira entre autres de lutter contre la parafiscalité et de supprimer tous les prélèvements non prévus par la loi des finances. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Soudan, ce jour 11 avril marque le 4e anniversaire d'un soulèvement populaire qui a conduit l'armée à renverser le président Omar el-Béchir. Mais les espoirs d'un régime civil ne se sont pas concrétisés. Le mouvement démocratique soudanais a lutté avec l'armée pour le pouvoir. Depuis Khartoum, Henry Wilkins fait le point sur l'état de la révolution emblématique du Soudan. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Pour les manifestants qui ont participé à la révolte populaire qui a renversé Omar el-Béchir, qui a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 3 décennies, le régime civil dont il rêvait reste élusif. En octobre 2021, après 18 mois de gouvernement civil, une nouvelle junte a pris le pouvoir par un coup d'État et reste à la tête du pays. Mohamed Ali, organisateur de manifestations quasi quotidiennes à Khartoum, estime que l'armée doit être sous le contrôle d'un gouvernement démocratique.
Je veux dire que l'autorité militaire ne doit pas être indépendante et isolée. C'est une étape essentielle pour garantir le processus de démocratisation. Les gens doivent y croire.
Les militaires affirment depuis plusieurs mois qu'ils vont mettre en place un gouvernement de transition et passer le pouvoir aux civils. Un projet d'accord politique en ce sens devrait être signé le 6 avril, mais il a été reporté. En mars, Mariam Al-Sadiq Al-Mahdi, vice-présidente du Parti national Ouma, impliquée dans les négociations, a déclaré à la VOA.
Ce gouvernement à large assise, nous en avons désespérément besoin pour assurer le succès de la période intérimaire à venir. Dans un plan B, nous pourrions envisager un gouvernement intérimaire pour une courte période, d'un an à 3 mois. Pendant ce temps, nous essayons de régler nos différends.
Mais les manifestants estiment que ce processus ne devrait pas être prolongé. Ils soulignent que les fonctionnaires et les enseignants n'ont pas été payés depuis des mois et que les services de l'État sont paralysés. Djibril Ibrahim, ministre des Finances.
Les forces politiques doivent s'asseoir autour d'une table et trouver un moyen de former ce gouvernement civil et je ne pense pas que cela soit impossible. Nous en sommes proches aujourd'hui.
Les analystes estiment que les dirigeants militaires cherchent à retarder le passage à un régime civil afin de consolider leur pouvoir. Cameron Hudson est du Centre d'études stratégiques et internationales.
Plus la situation se prolonge, plus l'armée a la possibilité de dissimuler sa main dans les sociétés financières, de développer des liens diplomatiques plus profonds qui vont contrebalancer la pression exercée par des sources internes ou externes.
Ala Al-Karib, de l'Initiative stratégique pour les femmes de la Corne de l'Afrique, estime que l'absence de progrès crée une situation dangereuse.
La situation générale est très problématique. Si l'on ajoute à cela la question de l'insécurité dans toutes les régions en conflit ou sortant d'un conflit, la situation devient dévastatrice et effrayante.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est dit alarmé par la montée des tensions et a appelé à un nouvel élan en faveur d'un régime civil pour résoudre la situation.
Abdourahmane Dia avec vous.
Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. L'ex-rébellion Touareg estime qu'il n'y a aucun moyen de construire un avenir commun avec Bamako. La veille, elle a dénoncé le survol de la ville du Nord par des avions de l'armée. Une montée de tension qui a poussé le groupe de médiateurs à faire des propositions concrètes visant à relancer l'accord pour la paix. L'accord d'Alger est-il menacé et faut-il craindre une reprise des hostilités? Quelle solution pour une paix définitive dans le nord du Mali? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Obtenir une éducation complète tout en conservant son identité religieuse peut être difficile dans certaines salles de classe américaines, mais il y a 140 écoles islamiques accréditées aux États-Unis qui visent à faire exactement cela. Rivan Diastono de la VOA a visité une de ces écoles dans l'état du Missouri. Le récit est de Dininiwa.
À une vingtaine de minutes du centre-ville de Kansas City, dans le Missouri, environ 200 élèves fréquentent l'école islamique du Grand Kansas City.
C'est plus facile pour nous de pratiquer notre religion. Il n'y a pas beaucoup de facteurs qui nous arrêtent, car dans d'autres écoles, il faut demander des heures précises pour aller prier.
Fondée en 1989, l'école vise à préparer les jeunes musulmans à être de bons citoyens de la société diversifiée de l'Amérique.
La communauté a décidé, en quelque sorte, qu'on veut sauver les enfants et le plus important est de sauver leur identité en tant que musulman.
Mais vous n'avez pas besoin d'être musulman pour la fréquenter en tant qu'étudiant ou postuler pour travailler à l'école islamique du Grand Kansas City. Cette école privée accréditée au niveau national utilise le même programme que la plupart des écoles de l'État du Missouri, avec en plus des études religieuses et l'apprentissage de l'arabe.
J'ai vu le développement non seulement sur le plan islamique, mais aussi académique. Ils ont fait un travail incroyable. Ma fille, qui pensait qu'elle n'était pas bonne en maths, est là, dans le Math Count, un concours national de maths.
Fazila Saïd a inscrit ses trois enfants ici et a trouvé que l'environnement confessionnel était utile à chacun d'eux.
Mais la directrice de l'école admet qu'il a été difficile d'embaucher suffisamment d'enseignants de qualité pour créer cet environnement.
C'est l'un des grands défis que nous avons. Nos enseignants sont certifiés, ils sont diplômés d'ici, la plupart d'entre eux ont une maîtrise. Et si vous comparez le salaire que nous leur versons aux écoles publiques, il y a une grande différence. Il est plus bas.
Mais les étudiants affirment que tout le monde tire le meilleur parti des ressources limitées.
Nous avons récemment lancé un nouveau club de tir à l'arc. Chaque membre a dû payer $100 pour l'équipement. Mais puisque nous avons tous contribué, nous avons finalement obtenu l'équipement maintenant.
L'école islamique du Grand Kansas City est l'une des quelques 140 écoles islamiques accréditées à travers les États-Unis.
Aujourd'hui, c'est la fin. Alexandrine Prolognon était à la production. Georges Sagnot à la réalisation. Merci pour votre fidélité à ce programme. L'actualité continue sur voaafrique.com et vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux VOA Afrique, Facebook, Twitter et Instagram. Excellente soirée à toutes et à tous avec les programmes de VOA Afrique. Yeah, man.